Dieu nous aime. Ah, amen. La plus grande manifestation de son amour, nous l'avons vu à l'instant, est quand il est venu sur terre par Jésus-Christ pour mourir à notre place. Alors que nous méritions tous l'enfer à cause de nos péchés, du mal que nous avons fait et de toute notre désobéissance à la volonté de Dieu, Dieu vient sur terre. Il donne sa vie, il ressuscite et par son œuvre, il pardonne nos péchés, il rétablit notre relation avec Dieu pour toujours et il nous offre la vie éternelle. Énorme. Quand nous comprenons ce message, que nous nous repentons de nos péchés et plaçons notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, nous recevons l'assurance du pardon, la vie éternelle, l'amour de Dieu bouleverse notre vie. Ensuite, un désir très fort grandit en nous, lui plaire. On est d'accord? C'est naturel, faire plaisir à Dieu. Il m'a tellement aimé que je ne peux pas ne pas l'aimer en retour. Hein? Faire plaisir à Dieu est devenu ce qu'il y a de plus important pour nous. Nous voulons ensuite grandir dans notre relation avec Dieu, mieux le connaître, lui exprimer toute notre reconnaissance dans notre manière de vivre, notre amour, etc., etc. Mais faire plaisir à Dieu n'est pas une chose que nous pouvons faire par nous-mêmes et à notre manière. Il est indispensable que nous cherchions ce qui plaît à Dieu dans sa parole, la Bible. J'ai souvent rencontré, peut-être vous aussi, des personnes qui m'ont dit « Je fais ça, ça et ça pour Dieu. » Et je pense qu'il est d'accord. Il est content de ma manière de faire. Malheureusement pour ces personnes, Dieu n'est pas tout le temps d'accord avec elles. La seule manière de faire plaisir à Dieu, de la bonne manière, est d'aller vers Dieu et de chercher à comprendre ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît est contenu dans la parole de Dieu, la Bible. Et ensuite, à nous de vivre dans l'obéissance à cette parole. Alors, une question importante pour nous ce matin. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est ce que nous allons voir ce matin dans sa parole, la Bible. Bien entendu, je ne pourrai pas dire tout ce qui plaît à Dieu. La liste serait très longue. Mais nous allons voir trois choses, peut-être qui pour vous sont inhabituelles, mais combien importantes pour plaire à Dieu. Nous continuons aujourd'hui notre série de messages sur le livre d'Ésaïe. Le texte que nous allons prendre se trouve dans le dernier chapitre. Juste un verset pour nous. Donc Ésaïe chapitre 66, le verset 2. Donc il va s'afficher, mais j'attends que vous trouviez le texte dans vos Bibles. J'aime toujours ce bon bruit de petit papier. Les smartphones, on n'entend rien. Rien de grave. Hein. Donc voilà, Ésaïe, dernier chapitre, donc 66, juste le verset 2. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui tremble à ma parole. Comme il est tout petit, je vais le relire quand même. Voici sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu sur celui qui tremble à ma parole. Amen. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dans ce texte, on relève trois choses ici. Je vais les dire un peu différemment. Premièrement, mon authenticité. Mon authenticité. Le contexte de ce chapitre est très grave. Certaines personnes du peuple de Dieu mélangent ce qui plaît à Dieu avec des choses qu'ils détestent. Ils ont l'air de penser que Dieu leur sera favorable alors qu'ils sont clairement dans le péché. Alors, on va citer les deux prochains versets qui sont juste les versets 3 et 4. Écoutez bien ceci. Celui qui sacrifie un bœuf, sous-entendu ce qui plaît à Dieu en fait, tue aussi un bien, aussi bien un homme, donc sacrifice humain, ce que Dieu déteste. Celui qui immole un agneau, ce qui plaît à Dieu, rompt la nuque à un chien, ce que Dieu déteste. Celui qui présente une offrande, ce qui plaît à Dieu, offre du sang de porc, ce que Dieu déteste. Et celui qui fait brûler de l'encens, ce qui plaît à Dieu, c'est une idole qu'il bénit, ce que Dieu déteste. Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, je choisis moi aussi de les abandonner à leurs caprices. Et je les frapperai des douleurs qu'ils redoutent, puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté, puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît. Fin de notre lecture. On voit ici que certains Israélites veulent renouer avec le culte prescrit par la loi, c'est bien, mais ils le pervertissent par la pratique de sacrifices humains, de sacrifices de chiens ou de porcs. Et on comprend dans l'Ancien Testament que tout cela est très grave aux yeux de Dieu. Le prophète condamne fermement ce mélange de rituels religieux déshonorant le Seigneur. Comme vous pouvez le remarquer, la situation donc est très grave. D'un côté, une partie du peuple de Dieu fait des choses que Dieu a prescrites, mais en même temps, ils font des pratiques abominables que Dieu a en horreur. Ces personnes font tout cela en pensant que Dieu leur sera favorable et les bénira. Tout ce mélange est très grave aux yeux de Dieu. On ne peut pas mélanger des choses qui plaisent à Dieu avec des choses que Dieu déteste. C'est très clairement de l'hypocrisie et une non-soumission à Dieu. Mes amis, j'ai rencontré des croyants qui étaient pleinement dans cet état d'esprit-là. Dans le péché, en continuant à aller à l'église, à faire de belles prières lors des cultes, pensant que Dieu leur resterait pour eux favorable malgré leur hypocrisie. Ils arrivaient même à un point où ils pensaient que Dieu était d'accord avec eux. Pas de souci, Dieu est d'accord avec moi. C'est très grave. Plus on accepte le péché dans notre vie, plus notre cœur s'endurcit. Et là, aïe, 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 quand notre cœur est endurci, ça nous amène dans une illusion que Dieu est avec nous alors qu'il ne l'est pas. On trouve des textes dans l'Apocalypse, où une église paraît parfaite, mais Dieu lui dit, il y a une chose que j'ai contre toi. Nous croyants, faisons attention à l'hypocrisie. Faisons très attention à l'hypocrisie. Ne faisons pas semblant devant Dieu. On peut, après plusieurs années de vie chrétienne, se laisser aller. Servir Dieu à fond, faire plein de choses pour lui, mais au fond de notre cœur, nous ne sommes plus en relation avec lui. Et nous avons laissé le péché prendre de plus en plus de place dans notre cœur. Où en sommes-nous par rapport à l'authenticité? Comment venons-nous à l'Église? Sommes-nous hypocrites? Avons-nous accepté un ou plusieurs péchés dans notre vie? Pensons-nous que Dieu est d'accord avec toute notre manière de vivre? Sommes-nous de bons chrétiens à l'église, mais de très mauvais maris, épouses, pères, mères, frères, sœurs, enfants, quand nous sommes à la maison, ou de très mauvais voisins, employés, patrons à l'extérieur de chez nous. Croyons-nous dans ce mensonge que Satan répand, que Dieu nous bénira parce que nous allons à l'église, chantons des louanges, lisons la Bible, allons dans un groupe de maison, alors que nous laissons de plus en plus de place au péché dans notre vie. Laissons-nous Satan nous faire croire que rester dans le péché, sans repentance, sans changement, c'est chose normale. Avons-nous pris l'habitude de venir à Dieu avec de belles façades, tout en lui cachant nos péchés? Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Un sous-entendu, nos pensées, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Dieu regarde nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous affectionnons, tout ce que nous avons et que nous maintenons dans nos pensées. Il voit tout de nous, il connaît tout de nous. Rien ne peut être caché devant lui. Ce qu'il attend de nous et qui lui fait plaisir, c'est que nous soyons totalement vrais, honnêtes, authentiques, sans aucune trace d'hypocrisie. Alors si tu es dans une situation de péché et que tu sais avoir pris le temps, tu es dans une certaine complaisance, tu te laisses aller, il y a vraiment danger pour toi. Repends-toi. Reviens à Dieu. Et si c'est dur pour toi de t'en sortir, rien de grave, mais sois vrai. Dis à Dieu ta souffrance. Dis à Dieu ton combat, ta lutte. Dieu t'aime, veut te pardonner et te secourir. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Premièrement, mon authenticité. Deuxièmement, mon humilité. Par son attitude, le peuple se montre insoumis à Dieu. Son orgueil est immense. Penser que Dieu lui sera favorable et le bénira avec un cœur rempli d'orgueil, c'est très grave. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 5, « Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. » Tout homme orgueilleux est en abomination à Dieu. L'orgueil est pour Dieu une chose abominable, dégoûtante, insupportable, intolérable, objet d'horreur, totalement condamnable au plus haut point. Le texte est clair, l'homme orgueilleux ne restera pas impuni. La Bible dit aussi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, un texte qu'on connaît beaucoup, Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose et résiste à ceux qui sont orgueilleux. Il est contre et agira contre celui qui se maintient dans son orgueil. Pensons-y. Le Dieu puissant s'oppose à notre orgueil et est décidé à le briser. Par contre, ce même Dieu puissant ne saurait résister à un cœur brisé et contrit. Touchant. Dieu est très sensible à celui qui souffre, s'humilie, qui est malheureux, abattu, affligé, misérable, pauvre, humilié, faible. Pour ceux qui pensent que Dieu est insensible, vous avez mal lu la Bible. Dieu est vraiment sensible à la souffrance. Dieu est vraiment sensible, beaucoup plus que nous, à la souffrance. Il est tellement sensible à la souffrance qu'il est venu sur terre et il a donné sa vie pour la briser. Dieu veut en fait, quand on voit ce texte, on pourrait dire, mais oui, mais moi je ne suis pas humilié ou je ne suis pas dans cet état-là. Mais il y a un état d'esprit, une attitude de cœur que Dieu veut. Dieu veut l'attitude de cœur d'une personne qui reconnaît devant son Créateur qu'elle n'est rien sans lui. Qu'elle a désespérément besoin de lui. Qu'elle est faible et totalement nue sans lui. Dieu veut qu'on reconnaisse devant notre Créateur que toute notre existence dépend de lui. Qu'on comprenne bien notre place de créature devant notre Créateur. Parce que si vous ne le savez pas, le fait qu'on soit autant enclin au péché, c'est en fait tout simplement le problème de prendre la place de Dieu. Dieu veut que nous reconnaissions que nous sommes des créatures face à notre Créateur et que nous nous soumettions à sa seigneurie, à sa royauté, à sa grandeur. Donc Dieu veut cette attitude de cœur d'une personne qui se sait faible et totalement nue devant lui. Nous ne pouvons pas être maître de notre vie. Dieu veut cette attitude de cœur. C'est cela qui lui fait plaisir. Il fait grâce aux humbles. Il est favorable à celui qui s'humilie et vient à lui sans faire valoir quoi que ce soit, mais qui cherche son secours en lui. Où en sommes-nous par rapport à l'humilité? Une chose qui révèle notre orgueil, c'est la pauvreté de notre vie de prière. Quand nous ne prions pas ou très peu, c'est comme si nous disions à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui dans notre quotidien. L'humilité se manifeste quand nous apprenons à dépendre de Dieu. Et la dépendance de Dieu se manifeste dans la vie du croyant par la prière. J'ai besoin de toi. Une autre chose qui peut révéler notre orgueil, c'est notre désobéissance à la parole de Dieu. Par notre insoumission à Dieu, nous montrons notre désir de vivre comme bon nous semble. Tu m'as créé, c'est bien, maintenant reste dans ton ciel, laisse-moi faire. Je sais ce que j'ai à faire ici. Par notre insoumission à Dieu, nous montrons clairement notre désir de vivre comme bon nous semble. L'humilité se manifeste quand nous apprenons à nous soumettre de plus en plus à Dieu, que nous reconnaissons comme Créateur, au-dessus de tout, méritant toute la gloire, l'honneur et la puissance. Une dernière autre chose, on pourrait faire toute une liste, j'en ai relevé juste trois, c'est-à-dire autre chose qui peut révéler notre orgueil, c'est notre comportement avec les autres. Aïe, aïe, aïe. Quand nous nous croyons mieux que les autres, et quand peut-être vous vous dites, non, moi je ne me crois pas mieux que les autres, alors regardez si vous êtes jaloux, s'il y a une petite trace de jalousie, juste une petite. C'est que vous avez envie d'être au-dessus. Vous avez un certain désir d'avoir une place. Quand nous croyons être mieux que les autres, quand nous avons du mal aussi à reconnaître nos torts devant les autres, Dieu déteste de telles attitudes. Car nous avons tous exactement la même valeur aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas mieux que les autres, car à cause de nos péchés, nous méritons tous l'enfer. L'humilité se manifeste quand nous apprenons à voir les autres comme tout aussi importants que nous. Quand nous apprenons à nous abaisser quand il y a conflit pour vivre le pardon et rechercher la paix et la réconciliation. Quand nous comprenons que nous avons tous exactement la même valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu nous protège de l'orgueil et nous aide à être humbles. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Mon authenticité, mon humilité et dernier point, mon respect de sa parole. Le peuple de Dieu n'avait plus de respect pour la parole de Dieu. Dieu parle, mais hein, ça rentre dans une, mais ça sort de l'autre. Ils ne se soumettaient pas à Dieu lui-même. Ils agissaient comme bon leur semble, pensant que Dieu serait d'accord, favorable et bénirait. Le texte dit ceci dans Ésaïe, donc je relis le chapitre 6, verset 2. Non, plutôt le chapitre 66, verset 2. « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Celui qui tremble à ma parole. C'est fort. Le peuple ne tremblait plus au son de la parole de Dieu. C'est très certainement pour cela que le livre d'Ésaïe, tout en donnant des paroles d'espérance, donne aussi des paroles fortes de mise en garde, des jugements. Et il finit, ce texte, tout le livre d'Ésaïe finit sur cette note-là de mise en garde. On se dit, normalement, on finit un livre et on met le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez la fin du texte. Verset 22 à 24. Je cite donc la fin du livre d'Ésaïe. « Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'Éternel ne déclare, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Une promesse qui fait écho à l'Apocalypse, n'est-ce pas? Verset 23, « Il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. » Quelque chose qui sera normal. Verset 24, « Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. » On regarde ce dernier verset, on se dit « Waouh !» On a envie de lire, vous faites peut-être ça, vous regardez un bouquin et vous dites « Tiens, je vais regarder le début, puis je vais regarder la fin. » quoi. Regardez le début c'est terrible, ça part dans tous les sens, péché à outrance, et vous arrivez à la fin et vous arrivez sur ça, quoi. Le jugement dernier. Cette prophétie d'Ésaïe fait référence à la fin des temps. Il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il y a ici de quoi nous réjouir. Réjouir ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Amen. Mais il y aura aussi ce lieu où ceux qui se sont révoltés contre Dieu seront rongés par des vers et brûlés par un feu éternel. En disant ces mots terribles à la fin du livre d'Ésaïe, Dieu veut mettre en garde tous ceux qui vivent loin de lui, dans le péché, l'hypocrisie, l'idolâtrie. Mes amis, Dieu est favorable et prend plaisir en nous si nous tremblons à sa parole. Si sa parole n'a aucun effet dans notre vie, il y a un problème. Nous qui appartenons à Dieu, nous devrions trembler devant la parole de Dieu. Où en sommes-nous par rapport au respect de la parole de Dieu? Est-ce que nous manquons de sensibilité face à son message? Est-ce qu'il nous arrive encore de trembler devant cette parole quand nous entendons ce que nous avons entendu ce matin? Est-ce que nous laissons Dieu nous reprendre quand nous entendons la Bible? Quand Dieu nous révèle nos péchés, est-ce que cela nous amène à la repentance, au changement, ou on ferme les yeux? Manquons-nous de sensibilité quand Dieu nous appelle à nous détourner du péché pour nous tourner vers lui? Est-ce que notre respect de Dieu se voit par notre respect de toute sa parole? Est-ce qu'il y a certains textes dans la Bible que nous avons amoindris? Ah oui, mais ça veut plutôt dire ça parce que ça va plus dans mon sens, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a certains textes que nous avons étouffés, rayés ou déchirés? Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des personnes à mon bureau et puis en arrivant sur une vérité, j'ai dit, mais si tu dis ça, il y a plusieurs textes qu'on pourrait déchirer dans la Bible. Quels sont les textes qui nous dérangent? Les avons-nous mis de côté? Mettons-nous vraiment la parole de Dieu en pratique? Trembler devant la parole de Dieu, c'est laisser Dieu être Dieu. C'est laisser Dieu nous parler comme il veut nous parler. Non comme nous voudrions qu'il nous parle. Il m'a dit ça, mais ça voudrait dire ça. On va tout de suite traduire et donner notre interprétation. C'est laisser Dieu nous parler comme il a décidé de nous parler. C'est laisser Dieu nous déranger. C'est nous laisser reprendre là où nous avons péché, là où ça fait mal. C'est grandir dans notre connaissance du Dieu qui est saint, qui ne tolère aucun péché. C'est être plus sensible à la présence de Dieu au point que le péché devient détestable à nos yeux. Toujours plus détestable quand nous grandissons. Et nous sommes sensibles à Dieu qui s'attriste face à notre péché. C'est détester de plus en plus le péché et rechercher avec plus de joie la sainteté. C'est nous repentir de nos péchés toutes les fois où nous en sommes conscients. Vivre la joie du pardon et don et ne cesser d'être reconnaissant devant un Dieu plein de grâce qui nous aime d'un amour éternel. Que Dieu nous aide à rester sensibles à sa parole. Que nous soyons une église qui tremble au son de la parole de Dieu quand celle-ci va dans une direction qui nous dérange ou quand Dieu nous montre un aspect dans notre vie qui doit changer. Nous voulons être un peuple qui tremble au son de la parole, non parce que nous avons peur de Dieu, mais parce que nous le respectons. Il n'est pas n'importe qui. Il mérite le plus grand des respects. J'aime dire qu'il y a quand même une part de peur dans cela. Quand vous arrivez, pour ceux qui sont arrivés au Grand Canyon, ou moi j'ai jamais vécu cela, mais toutes les fois vous avez vu des choses d'une grandeur extraordinaire, mais on vous met tout de suite là devant une falaise et on vous pousse même limite pour vous montrer la grandeur de ce que vous voyez. Vous ne sentez pas la peur ? Et je crois que c'est cette peur qui doit nous animer aussi. C'est cette grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand que je suis comme saisi de peur. Vous voyez de quelle peur je parle ? Pas celle qui paralyse, mais celle qui reconnaît un Dieu qui me dépasse. C'est un Dieu plein d'amour qui veut sauver, nous donner de jouir du bonheur en sa présence pour l'éternité. C'est de ce Dieu que nous parlons. Mais nous savons qu'il va juger ceux qui se détournent de lui. Le jugement est terrible et fait trembler. Et ce Dieu-là est grand. Et nous voulons nous laisser saisir par la crainte et la peur de lui dans ce sens que je viens de décrire tout à l'heure. Quand Dieu nous reprend, ce n'est pas un jeu. Nous devons vraiment écouter. Nous devons le laisser nous reprendre et changer de conduite. Nous n'avons pas le droit d'amoindrir la parole de Dieu parce que Dieu est totalement saint, sans aucune trace de péché ni de mal en lui. Vous savez, les sorts qui sont donnés, en tout cas les jugements qui sont donnés à ceux qui voudraient retrancher, amoindrir, etc. Les jugements sont terribles. J'aimerais juste dire, on est à la fin de ce message, mais dire, même dans l'enseignement, pour moi qui prêche ce matin, nous qui prêchons à l'église d'Ozoir, pour vous qui enseignez dans les groupes de maison, pour ceux qui partagent l'évangile et qui enseignent aux enfants, ce que nous faisons a une importance tellement immense. La Bible dit, c'est Jacques qui dit ceci, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Nous devons enseigner avec le plus grand sérieux possible. Parce que c'est du sérieux. Tout en sachant que le Dieu qui est grand, qui va juger, est un Dieu d'amour et nous appelle à lui pour jouir de sa présence. Que Dieu nous aide à ne cesser de respecter sa parole. Je vais conclure en redisant un peu ce que j'ai dit à l'instant par rapport au point. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu ? Mon authenticité, mon humilité, mon respect de sa parole. Nous prions maintenant. Que Dieu nous aide à vraiment être des chrétiens authentiques, humbles et respectueux de lui et de sa parole. Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes détournés de toi. Pardon pour toutes les fois où nous avons été hypocrites. Pardon pour nos infidélités envers toi. Pardon pour notre orgueil. Pardon pour notre manque de respect et de soumission et aussi d'obéissance à ta parole. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas cherché à te plaire dans notre vie quotidienne. Aide-nous à continuer à vivre pour te plaire. Continue à saisir nos cœurs par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Rends-nous toujours plus authentiques, humbles et respectueux de toi et de ta parole. Nous nous attendons à l'action de ton esprit pour davantage vivre pour te plaire. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.